Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal de la Radio des Nations Unies. Avec en titre les dégâts du cyclone Chapala au Yémen, l'inquiétude de l'UNICEF quant aux enfants réfugiés dans les Balkans. Nous ferons aussi le point sur le fléau de la corruption à l'occasion de la conférence qui lui est consacrée à Saint-Pétersbourg. Coup de projecteur dans le dossier sur le problème de l'apatridie. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Voix de Femmes. L'OMM, l'Organisation Météorologique Mondiale, avait mis en garde le Yémen et Oman contre l'arrivée d'un cyclone tropical très rare et potentiellement à fort impact. Finalement, ces prévisions du cyclone Chapala se sont matérialisées sur le terrain par des vents violents et de fortes pluies. Ce cyclone qui a frappé dans la nuit de lundi à mardi les côtes du sud-est du Yémen a provoqué des inondations et des dégâts. Mais pour le moment, aucun bilan pour les victimes n'a été fourni. Alpha Diallo.
À ce stade, les organisations humanitaires de l'ONU et l'Organisation météorologique mondiale ne fournissent aucun bilan sur les victimes et les dégâts. Seule certitude, après le passage du cyclone Chapala au Yémen, les vents ont soufflé parfois à plus de 145 km/h et de fortes vagues ont balayé les côtes des provinces du sud-est. Mais l'OMM redoute surtout les conséquences des pluies torrentielles pour un pays désertique et aride qui a sûrement des infrastructures inadaptées. Et du côté des humanitaires, l'aide s'organise, Fadela Shaib est le porte-parole de l'OMS.
Une catastrophe qui s'ajoute au drame quotidien des Yéménites qui connaissent vraiment une situation humanitaire difficile. Nous nous sommes préparés en envoyant dans le gouvernorat de Hadramout des équipements médicaux pour plus de 1000 patients qui pourraient avoir de différentes blessures ou des problèmes de santé.
Il faut juste signaler qu'en raison du conflit, le Yémen traverse une crise humanitaire sans précédent. Plus de 7 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire. Alpha Diallo, Genève, pour la Radio des Nations Unies.
Autre crise, celle des réfugiés dans les Balkans. Une situation qu'a pu suivre pendant une semaine le porte-parole de l'UNICEF à Genève, Christophe Boulirac, en se rendant successivement dans l'ex-république yougoslave de Macédoine, en Serbie et en Croatie. Autant de pays où il a pu vérifier de visu le sort peu enviable des nombreuses mères et de leurs enfants, dont certains handicapés, qui tentent coûte que coûte de gagner l'Europe avant l'hiver.
Nous nous sommes rendus dans les centres de réception de, respectivement, Gevgelija, de Preševo en Serbie, de Opatovac en Croatie. Pendant une semaine, nous avons parlé évidemment aux personnes en mouvement, à beaucoup d'entre elles. Nous avons noté une tendance croissante du nombre d'enfants. Au départ, nous parlions de moins d'un tiers, ensuite nous avons parlé d'un tiers, et aujourd'hui, nous parlons de 40% de femmes et d'enfants. Je vous confirme, pour avoir passé une semaine dans ces centres de réception, que nous voyons beaucoup d'enfants, que nous voyons des familles parfois avec 5-6 enfants, que j'ai vu des frères porter leurs petits frères handicapés sur les épaules. Il y a clairement beaucoup d'enfants et j'ajouterai des femmes enceintes.
La sixième conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption se poursuit à Saint-Pétersbourg, en Russie. Ce mardi, c'est le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales qui a déploré l'impact de la corruption sur le développement économique. Pour Wu Wangbo, la corruption entrave le développement économique et exacerbe les inégalités sociales. C'est pourquoi la lutte contre ce fléau est vitale pour mettre en œuvre l'agenda 2030 sur le développement durable. Wu Wangbo.
The linkage between anti-corruption and SDGs.
Le lien entre la corruption et les ODD est clair et net. La corruption coûte plusieurs centaines de milliers de dollars de pertes économiques. D'ailleurs, la Banque mondiale estime le coût annuel des pots de vin payés à 1 000 milliards de dollars américains. Le Forum économique mondial estime le coût annuel de la corruption à 2 600 milliards de dollars. Il n'est donc pas étonnant que la corruption sape la confiance dans les gouvernements et dans les fondements de nos institutions publiques.
Direction l'Afrique à présent, à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri, une quinzaine de personnes, dont 9 militaires, comparaissent devant le tribunal militaire pour différents chefs d'inculpation au cours d'audiences publiques. Objectif de ces audiences qui vont durer 10 jours, renforcer la confiance de la population en la justice militaire. Une correspondance de Radio Okapi.
Parmi les 16 personnes devant la barre figurent 9 militaires FARDC, dont 2 capitaines et 7 civils, dont une femme est poursuivie pour détention illégale d'armes de guerre. Selon l'auditeur militaire des garnisons, les audiences se portent sur 5 dossiers de braconnage avec armes au sein de la réserve à Fon, à Okapi, à Epolo, 3 dossiers pour viol et 2 dossiers pour détention illégale d'armes de guerre et association de malfaiteurs. Pour la première journée, le tribunal a procédé à l'identification physique des prévenus. Pour l'auditeur militaire, de des garnisons. Ces audiences publiques ont comme objectif de renforcer la confiance de la population à la justice militaire. Ces audiences qui vont durer 10 jours se déroulent devant le bureau de la police nationale congolaise de Nyanya avec l'appui financier et logistique du PNUD, du 7 Fort Kamangram et la section État des droits de la MONUSCO. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Kapi.
Et puis le changement climatique constitue une menace majeure pour la sécurité alimentaire qui pourrait soumettre des centaines de millions de personnes supplémentaires à la malnutrition. C'est ce qu'a averti ce mardi la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le droit à l'alimentation. Il a l'Elver qui tire la sonnette d'alarme et appelle à changer nos modes de production alimentaire. Christina Silvero.
Selon Hilal Elver, le changement climatique pourrait soumettre 600 millions de personnes de plus à la malnutrition d'ici 2080. Car l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la hausse des températures et du niveau des mers, les inondations et les sécheresses impactent le droit à l'alimentation. Autant de facteurs qui ont un effet négatif sur les cultures, l'élevage, la pêche, l'aquaculture et les moyens de subsistance. La rapporteuse spéciale appelle à changer les modes de production alimentaire pour subvenir à la demande. Il s'agit de passer de l'agriculture industrielle à des modèles transformatifs tels que l'agroécologie qui soutiennent la nourriture locale, protègent les petits exploitants agricoles, respectent les droits humains, l'environnement et facilitent une alimentation saine. À l'approche de la conférence de Paris sur le changement climatique, Hilal Elver souligne que l'accord issu de la COP21 doit inclure un engagement clair de toutes les parties à garantir la justice climatique et la sécurité alimentaire pour tous.
Vous écoutez un programme de la radio des Nations Unies.
Un retour sur l'actualité, un enfant apatride naît toutes les 10 minutes quelque part dans le monde. Dans les pays où vivent les 20 populations apatrides les plus nombreuses, 70 000 enfants apatrides au moins naissent chaque année. Et cette naissance vient s'ajouter aux 10 millions d'apatrides. Dans une enquête réalisée par le HCR, ces enfants se décrivent comme étant invisibles, vivant dans l'ombre et sans intérêt. Pour en savoir plus, Alpha Diallo a tendu son micro à Volker Türk, haut commissaire adjoint du HCR chargé de la protection.
On a une estimation d'un chiffre de à peu près 10 millions apatrides dans le monde. La moitié de ces apatrides sont des enfants, justement. Et le grand problème, c'est que l'apatridie est passée d'une génération à l'autre. Vous avez encore dans 27 pays dans le monde des lois de nationalité qui discriminent sur la base de genre. La femme, si elle est mariée à un étranger ou à un apatride, n'a pas la possibilité juridique de passer sa nationalité à ses enfants. Ça peut, dans certains cas, mener à une situation d'apatridie pour les enfants. Alors là, vous voyez qu'on crée en fait un problème d'apatridie juste parce que la loi de nationalité fait une différence à cause du genre.
Et lors de cette enquête, quels sont les sentiments généralement partagés par ces enfants apatrides et les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien ?
Imaginez, à un moment donné, ces enfants qui sont apatrides réalisent qu'ils n'ont pas les documents. Alors, quelquefois, ils ne peuvent pas avoir accès à l'éducation. Quelquefois, ils ne peuvent pas avoir facilement accès aux services de santé. Quelquefois, ils ne peuvent pas avoir un accès facile pour l'emploi. Alors, bien sûr, ils réalisent qu'eux, ils sont des enfants, ils sont traités différemment. Et bien sûr, comme enfant, on ressent cette sorte de discrimination d'une façon assez pénible parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas de différence entre moi et les autres enfants et pourquoi je suis traité comme ça. Alors qu'ils se sentent sans dignité et sans valeur. Et évidemment, l'impact sur les enfants est encore beaucoup plus grave que sur les adultes.
Est-ce à dire que ces enfants qui sont nés dans le pays sont souvent traités d'étrangers et que ça leur empêche, par exemple, d'aller à l'école ?
Il y a des situations où, si l'enfant n'a pas de documents et quelquefois ils n'ont pas d'acte de naissance, ça peut être une des raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas aller à l'école. Alors, dans cette étude sur les enfants apatrides, il y a plusieurs enfants qui parlent comment c'était difficile pour eux d'avoir accès à l'éducation, justement parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance ou ils n'avaient pas un acte de citoyenneté.
Et pour réaliser cette enquête, la HCR a interrogé plus de 250 personnes, dont des enfants. Mais quels sont les pays où ce problème d'apatridie pose le plus de problèmes?
Alors, vous avez le phénomène d'apatridie dans tous les continents. Vous l'avez en Europe et c'était après la dissolution de l'ex-Union soviétique, mais aussi en Yougoslavie. Vous avez eu des problèmes d'apatridie et il y a beaucoup qui a été résolu entre-temps. Vous avez ça aux Amériques. Par exemple, il y avait toute une discussion autour de ce qui se passe en République dominicaine, mais là, de nouveau, il y a des efforts qui étaient faits pour résoudre des problèmes d'apatridie. Vous avez ça en Asie du Sud-Est, en Sri Lanka, mais aussi au Bangladesh, par exemple. En Thaïlande, il y avait beaucoup d'efforts qui étaient faits. On a toujours un problème au Myanmar. Et vous avez ça aussi en Afrique. Mais un exemple très positif, c'était la Côte d'Ivoire, avec son changement de loi de nationalité pour ceux qui, à un moment donné, étaient apatrides sur leur territoire.
Et finalement, que recommande le HR pour remédier à ce problème d'apatridie?
Tout d'abord, il faut qu'on mette beaucoup plus l'accent sur ce phénomène. On aimerait bien que beaucoup plus d'États vont accéder à la Convention sur la réduction de l'apatridie de 1961, qu'on essaie de réformer les lois de nationalité et qu'on prend ce problème au sérieux. Alors c'est vraiment qu'on essaie de voir s'il n'y a pas de l'énergie politique qui peut aller là-dedans pour justement résoudre ce problème.
Voix de femme.
Quand les femmes sont mieux traitées, le monde devient meilleur pour tous. Tenant compte de cette réalité, 193 pays ont fait de l'égalité entre hommes et femmes un élément central des nouveaux objectifs de développement durable. Malgré des progrès dans nombre de domaines, le monde n'a pas réussi à aligner l'emploi des femmes, leurs revenus et leurs conditions de travail sur ceux des hommes. Pour en savoir plus, Christina Silvero a joint Laura Adati, spécialiste en protection de la maternité et conciliation entre travail et famille au sein de l'OIT.
L'engagement que 193 pays ont fait dans le cadre du programme des Nations Unies pour le développement durable a mis l'égalité entre hommes et femmes au cœur de cette initiative. 17 objectifs du développement durable définissent des cibles sexo-spécifiques. Et l'objectif 5 a comme objectif de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L'OIT a aussi un rôle clé dans la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au travail et aussi de lier cette préoccupation, cet objectif, à l'objectif aussi 9 de promouvoir un travail décent, une croissance économique et de réduire les inégalités. L'objectif 10. Le futur du travail dépend de l'avenir des femmes au travail. Est essentiel, en fait, parvenir à éliminer les causes structurelles de l'inégalité entre hommes et femmes.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont ces causes?
Les causes fondamentales touchent les traditions culturelles et aussi les stéréotypes de genre qui font en sorte que les femmes continuent d'être les principales personnes en charge des tâches ménagères et des responsabilités familiales. Tout d'abord, cela constitue un obstacle à l'accès des femmes au travail en général, mais aussi au travail de qualité. Et c'est là important pour réduire les inégalités et promouvoir une croissance économique durable.
Que compte faire l'OIT? Quelles sont les prochaines étapes?
L'OIT a lancé l'initiative du centenaire sur la femme au travail. Et c'est une initiative lancée par le directeur général de l'OIT pour marquer vraiment le centenaire de l'organisation et aussi étudier quelle est la condition des femmes après effectivement un centenaire de vie de l'organisation. Où en sommes? Quelle est la situation des femmes dans le monde du travail? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que ça marche pour au niveau des politiques, au niveau des lois, pour promouvoir un travail décent pour tout le monde et la réduction des inégalités? L'OIT travaille pour promouvoir les conventions de l'OIT sur la réduction des discriminations et c'est là aussi une cible spécifique de l'objectif 5, mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des filles. Et donc, les conventions de l'OIT jouent un rôle important dans la contribution de l'élimination de toutes formes de discrimination. Aussi, les conventions sur la protection de la maternité et les travailleurs avec responsabilité familiale. Cela sont vraiment les piliers et il ne faut pas oublier aussi sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cela, c'est vraiment les piliers de l'égalité de genre que l'OIT promeut dans le monde en collaboration avec nos membres, les mandants du BIT, les gouvernements, les syndicats et les organisations d'employeurs. De cette façon, il y a vraiment une valeur ajoutée à laquelle l'OIT peut contribuer à travers les normes internationales du travail et le travail que l'organisation fait avec ses mandants pour lier l'égalité entre hommes et femmes et le travail décent et la réduction des inégalités. Donc c'est un défi important. On sait qu'il y a des engagements et il y a vraiment le temps maintenant d'agir et d'investir dans les femmes.
Voilà, et c'est avec Laura Adati de l'OIT que se referme ce journal de la Radio des Nations Unies, une édition à retrouver sur l'internet à radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.